Père, Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Spontanément, quand on évoque devant vous le mot de manifestation, à quoi est-ce qu'on pense? Évidemment, à toutes sortes de mouvements sociaux, petits ou grands, qui agitent la rue au moins deux fois la semaine, au motif que telle ou telle revendication n'a pas été entendue par le pouvoir en place. Vous voyez, à ce phénomène de la manifestation renvoie ce beau terme de manifestation. Nous sommes, nous autres, les Gaulois, habitués depuis plusieurs siècles à ce genre de phénomène. Et à quoi visent ces manifestations de tout genre? Eh bien, à attirer l'attention publique, hein, par des manifestations de plus ou moins bonne loi, c'est vrai. Il faut faire nombre, comme on dit, et il faut faire date. Voilà ce que vise une manifestation. Et une manifestation met en évidence les oppositions qui habitent la nation entre divers groupes de partisans. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mes frères, sinon l'épiphanie, c'est-à-dire, étymologiquement, la manifestation de Dieu venu dans la chair, dans cette personne qu'est l'enfant Jésus. Alors vous me direz, c'est un peu, comme souvent dans vos sermons, tiré par les cheveux, ces rapprochements, une accroche sur la manifestation dite, la manif, et puis on en vient à la manifestation du Seigneur, pas grand-chose à voir, vous me direz. Mais plus que vous pourrez y penser spontanément. Comme dans une manif, le Seigneur Jésus cherche à attirer l'attention publique. Et il l'attire à l'égard d'un public toujours plus large, à mesure qu'on avance dans le temps de Noël. On a commencé très simplement avec cette annonce auprès de la Vierge Marie, simplement, par la voix de l'ange, lors de l'Annonciation. Puis ce fut au tour de Saint Joseph et de Sainte Élisabeth de découvrir ce Seigneur Jésus qui venait vers eux. Puis ce fut le tour des anges et des bergers dans la nuit de Noël. Ce fut ensuite le tour des mages, dont nous célébrons aujourd'hui l'arrivée à Bethléem. Et ce sera bientôt la manifestation par le baptême de Jésus, 30 ans plus tard, que nous fêtons jeudi ou vendredi prochain, je ne me souviens plus. Que, comme dans toute manifestation, le Seigneur emploie toutes sortes de moyens pour attirer l'attention. Les anges, l'étoile, les lumières jusqu'au baptême de Jésus, la Trinité elle-même qui se manifeste, la voix sortie du ciel et la colombe qui virevolte pour attirer l'attention, non pas sur le baptiste, mais sur celui qu'il est en train de baptiser. Vous voyez que comme dans une manif, on a là affaire à toutes sortes de grands moyens pour attirer l'attention du public. Et comme dans une manifestation également, cette manifestation de Dieu dans la chair mettent en exergue toutes sortes d'oppositions au sein de l'humanité. Dieu me dit lui-même, « Je suis venu semer le glaive. » Donc, n'est pas avec moi et contre moi. On se dressera parents contre enfants, on se dressera nation contre nation. Et que dit le vieillard Siméon à la mère du Christ le jour de sa purification et de la présentation de son fils? Il sera un signe de contradiction. Vous voyez que vraiment, on a affaire, d'une certaine manière, à une grande manifestation par cette venue du Christ dans la chair et venue du Christ qui attire l'attention de toute l'humanité. Je voudrais insister sur la ligne de fracture qui existe, comme dans toute manifestation, dans celle du Christ. Il y a une véritable fracture qui s'opère en fonction de l'usage qu'on fait de notre intelligence. L'intelligence, c'est ce qui caractérise l'être humain par rapport à l'animal. L'animal rationnel, c'est ce que nous sommes. Et en fonction de l'usage que nous faisons de notre intelligence, devant cette venue du Christ, devant cette manifestation du Fils de Dieu venu dans la chair, il y a deux camps, et pas plus de deux camps. Soit on appartient au camp des scribes, des pharisiens, qui savaient tout, à qui avaient été révélées des merveilles de Dieu depuis des siècles, et qui n'ont pas voulu faire un bon usage de tout ce qu'ils avaient reçu de la révélation divine. On les voit, ces pauvres pères, soumettre leur intelligence, soumettre tous les joyaux dont ils étaient les gardiens, au pouvoir temporel, et à un pouvoir temporel totalement corrompu. Il s'agit d'Hérode. Lorsque Hérode leur demande où doit naître le Messie, ils affirment immédiatement, par un certain nombre de citations d'Écriture, où doit naître ce Messie. Et lorsqu'Hérode, mage, attire l'attention sur le fait qu'il viendra lui aussi rendre hommage à cet enfant, etc., il ne vient pas à l'idée des scribes, des pharisiens, des élites de ce temps, qui devaient normalement être tendus vers la venue du Messie, de dire, bien, nous allons, nous aussi, accompagner les mages et adorer cet enfant, qui est le Messie envoyé par Dieu, notre libérateur, qui est la seule raison d'être de tout notre peuple. Pas du tout. Ils restent sagement en place, et leur silence, nous savons très bien à quoi conduit leur silence est une acceptation implicite de toutes les atrocités que commettra Hérode à l'égard de cet enfant. Le silence des élites juives, qui pourtant avaient reçu toutes sortes de révélations, conduit immédiatement au massacre des innocents. Ce sont ces élites qui ont abdiqué leur intelligence devant la bestialité d'Hérode. Et il n'est pas seulement affirmé par le texte sacré, qu'on trouve assez succinct et assez discret à cet égard, mais qui est affirmé par les historiens eux-mêmes. Hérode était un tyran sanguinaire. Voilà. Et ils ont accepté de se compromettre en faisant plier leur intelligence devant ce pouvoir temporel qui les impressionnait, plutôt que devant la réalité et le Fils de Dieu fait chair. Voilà donc à quoi conduit une intelligence qui n'est pas conséquente. Elle conduit à la mort, ni plus ni moins. En face de ce camp des élites juives, il y a, vous savez, ce camp des mages. Les mages, eux, ne bénéficient pas des mêmes joyeuses révélations surnaturelles. Les mages ont scruté les astres à longueur d'année, les mages ont fait un usage très droit, parfois un peu déviant sans doute, parce qu'ils devaient être soit polythéistes, soit astrologues, toutes sortes de choses où le démon a plus ou moins sa part. Mais au moins avait-il cette rectitude intellectuelle, cette honnêteté intellectuelle, et surtout cette fermeté devant le pouvoir temporel corrompu d'Hérode. Lorsqu'Hérode leur propose de lui indiquer de retour de Bethléem où réside exactement l'enfant, afin qu'il aille l'adorer lui aussi, les mages ne sont pas dupes. Et, nous dit le texte sacré, ils repartirent par un autre chemin. Ils ont bien senti, parce que leur intelligence était limpide, leur intelligence était droite, ils ont bien senti qu'elles ne pouvaient pas se compromettre avec le mensonge hérodien. Vous voyez cette dualité qui est très intéressante dans le texte sacré et dans l'histoire sacrée entre une intelligence qui, même ayant reçu toutes sortes de dons divins, se compromet et refuse de plier devant le mystère, et cette intelligence païenne qui a moins reçu, mais qui, parce qu'elle est droite, refuse de se compromettre avec toutes sortes de balivernes et toutes sortes d'atrocités. C'est, mes frères, le choix que nous avons à faire. Chaque génération doit refaire ce choix. Est-ce que nous voulons être du camp de ceux qui ont beaucoup reçu, et nous avons beaucoup reçu, la réelle ? Est-ce que nous voulons être de ce camp qui, ayant beaucoup reçu, se compromet ? Ou est-ce que nous voulons être de ce camp plus modeste, plus humble, des mages, qui peut-être ont moins reçu, mais ont la démarche intellectuel qui convient. Il s'incline devant le mystère. Il y a un camp qui conduit à la mort et un camp qui conduit, nous dit le texte sacré, à la joie. C'est très frappant cette expression qui est utilisée lorsqu'ils entrent dans la grotte de Bethléem. Que nous dit-on ? On nous dit qu'ils se réjouirent d'une très grande joie. C'est magnifique. Voilà à quoi conduit l'honnêteté intellectuelle. Alors vous me direz peut-être, si nous avons bien compris l'alternative, soit on est un méchant croyant, soit on est un gentil païen. Et nous, on ne peut pas être un gentil païen, puisqu'on a été baptisé et qu'on a reçu énormément de révélations. Donc, on est nécessairement dans la caste des méchants croyants. Alors, je ne voudrais pas vous affoler. Il y a, vous savez, un tertium quid, comme on dit en théologie. Troisième voie, comme disent un certain nombre d'hommes politiques. Troisième voie, c'est celle des anawim, les pauvres de Dieu. C'est cette immense caste magnifique et très hétéroclite des Jean-Baptiste, des Vierges Marie, des Élisabeth, des Siméon et j'en passe, qui, ayant beaucoup reçu, ayant beaucoup scruté les Écritures, ont néanmoins eu l'humilité, la petitesse de s'incliner devant le mystère, se disant que, ayant beaucoup reçu, ils n'avaient pourtant pas beaucoup de connaissances de Dieu. voyez, cette humilité foncière, c'est celle qui préside tout simplement à la démarche des apôtres. Je vous invite à reprendre le début de l'évangile de saint Jean, je crois que c'est au chapitre 4, quelque chose comme ça, où l'on a les disciples du baptiste, par lesquels Jean l'évangéliste, qui ont énormément reçu. Et qui auraient pu, alors que le baptiste les renvoyait au Christ, en disant « Voici l'agneau de Dieu », voyant ce rabbi Jésus un peu mystérieux, fils d'un charpentier, qui aurait pu comparer les deux, saint Jean-Baptiste et le Seigneur, et se dire qu'après tout, ils préféraient leur vieux maître, le baptiste, parce que lui, au moins, c'était un ascète du désert, c'était quelqu'un qui avait de la trempe, quelqu'un qui avait de la voix, qui hurlait sur toutes les places qu'il fallait se convertir, qui mangeait des sauterelles et des conseils. Et en le comparant au fils du charpentier Nazareth, ils auraient pu le trouver bien pas mal. Eh bien, ils ont accepté de plier leur intelligence devant ce mystérieux Jésus de Nazareth. Et au claquement de doigts du Seigneur, ils quittent tout pour le suivre. Ce n'est pas saint Jean qui nous le dit, ce sont les autres évangélistes qui nous disent, laissant là leur filet, ils le suivirent. Dans l'évangile de saint Jean, c'est assez frappant également, ils arrivent près de Jésus, maître, où demeures-tu ? Que répond Jésus ? Venez et voyez. Et ils le suivirent. Et ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Incroyable. Cette spontanéité, cette inclination de l'intelligence des premiers apôtres devant la voix du Maître. Mes chers frères, c'est vraiment ce que je souhaite pour nous en ce début d'année. Là, profitons toujours de cette ambiance de la crèche où tout est renouvelé, où tout est rasséréné. Demandons cette même docilité de notre intelligence à tous les mystères que Dieu nous propose et surtout à toutes les circonvolutions par lesquelles il plaira à la Providence de nous mener. Ne croyons pas que cette année 2012 sera ce que nous en rêvons. Ne croyons pas que cette année 2012 sera conforme à nos plans, pas du tout. Elle sera surprenante. Qui sait si demain, deux, trois personnes de cette assemblée ne sont pas déjà parties vers le Père. Qui sait si demain, je ne serai pas nommé évêque. Vous voyez que toutes sortes de surprises nous attendent. Voilà. Voilà, mais bien chers frères, plus sérieusement, je prie vraiment intensément pour que cette année soit celle de la grande souplesse de notre intelligence à la manifestation, à l'épiphanie de Jésus notre Seigneur que nous avons la joie de servir au nom du Père.